Ça va bien? Le froid s'annonce tranquillement. Les blancs s'habillent et les noirs pâlissent. Vous savez ce que j'aime dans l'hiver? Parce que j'ai un fond blanc derrière, les automobilistes me voient bien. Alors, je ne prends pas de chance d'être frappé par un auto. Alors, ce soir, on va ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, qui est notre texte de base. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, ou bien ceux qui viennent pour la première fois à l'Assemblée, depuis un certain temps, nous étudions dans Éphésiens chapitre 6. Bon, Éphésiens, ça vous dit. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous faisons une étude systématique de ce livre-là. Et les deux semaines passées, Trevor nous a entretenus sur le devoir conjugal, le devoir des enfants envers leurs parents. D'abord, le devoir des époux envers leurs maris, des épouses. Et puis après, le devoir des enfants envers leurs parents et le devoir des parents envers leurs enfants. Alors, c'est ce qu'il a enseigné par rapport à la soumission qui devrait s'exercer mutuellement dans la vie de couple, mais aussi dans la famille, dans le foyer, les enfants qui doivent obéissance à leurs parents et qui doivent honorer leurs parents, et les parents en retour qui devraient aussi répondre aux besoins de leurs enfants, mais tout en se soumettant à Dieu, et ils devraient éviter d'irriter leurs enfants, de les élever selon le Seigneur. Et ça, c'est un petit résumé que je fais de tout ce qu'il a donné en deux semaines. C'est beaucoup là. Si on veut faire tout le résumé, ça ne finira pas, n'est-ce pas? Alors donc, ce soir, le passage que moi j'ai, c'est la soumission des employés au patron ou des esclaves à leur maître dans le temps. Que nous pourrons même appliquer cela aux employés et aux patrons, comme je viens de le dire. Mais avant de continuer, on va lire Éphésiens, s'il vous plaît. Chapitre 6, verset 5. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, ce soir nous venons à tes pieds dans l'humilité, reconnaissant toute ma faiblesse, mes manquements. Je viens à toi afin de te demander de parler ce soir à ton peuple que nous sommes. Parle-nous. Je vais ouvrir la bouche, mais je veux que toi tu nous parles. Cache-moi derrière ta croix. Révèle-toi à chacun de nous ici ce soir, au travers de ce passage. Tous ceux qui sont venus affamés, qu'ils puissent sortir rassasiés. Ceux qui sont venus fatigués, qu'ils puissent sortir reposés. Ceux qui sont venus malades, qu'ils puissent sortir guéris. Nous te prions pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les années l'an 50 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 250 après, l'Empire romain avait déjà dominé le monde, ou dominait le monde en ce moment-là. Et vu qu'ils ont dominé, il y avait beaucoup d'esclaves dans l'Empire romain. Et les esclaves n'avaient pas les droits qui leur revenaient comme ça devrait être. Et les Romains ne respectaient pas le droit de ces esclaves-là. Et ils travaillaient, puisqu'ils étaient esclaves, alors ils faisaient le travail d'esclaves. Personne ne se souciait d'eux. Et à l'époque du Nouveau Testament aussi, c'est la même chose, c'était ça. L'esclavage était répandu partout. Les esclaves étaient maltraités. Ils ne jouissaient d'aucun droit, d'aucune liberté. On les traitait comme des animaux. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va écrire son épître et il va tenir compte de ces chrétiens, ces esclaves devenus chrétiens et qui vivaient maintenant dans une église avec des maîtres chrétiens. Leur maître est chrétien, l'esclave est chrétien, ils se rassemblent dans la même église, ils louent le même Seigneur, ils écoutent la même nourriture ou ils mangent la même nourriture spirituelle. Et après, ils retournaient pour travailler pour leur maître. Et c'est dans ce contexte-là que Paul va s'adresser à eux. Ces esclaves-là, quel est leur devoir à l'égard de leur maître? Et les maîtres, quels sont leurs devoirs à l'égard de leurs esclaves? Entre parenthèses, serviteurs. Mais dans le passage original, c'est esclave qui voudrait dire en grec « doulos ». Donc, dans ce contexte, Paul parle à eux. Et qu'est-ce qu'il va dire quand nous regardons? Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Quand je regardais le texte, je me suis dit, mais est-ce que Paul avait-il besoin de dire ça? Avait-il besoin de dire aux serviteurs d'obéir à leur maître? Est-ce que cela n'était pas connu d'avance? Est-ce que cela n'était pas exécuté d'avance? Est-ce parce qu'il y a certains serviteurs qui n'obéissaient pas à leur maître que Paul a besoin d'ajouter « Serviteurs, obéissez à vos maîtres ». Je pense que oui, les serviteurs obéissaient à leur maître. Paul ne voulait pas alourdir leur travail quand il dit cela. Mais au contraire, il veut les faire du bien. Obéissez à votre maître. Et qu'est-ce que ça voudrait dire dans cela? Obéissez à votre maître. Avant de toucher même la définition de cela, et Paul élève deux points. Non seulement il parle de l'obéissance dans ces deux principes-là, il parle aussi de servir. Du verset 5 à 7, c'est ces deux principes que Paul mentionne. Et de ces deux principes vont découler tout le reste de son discours. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Selon la chair, ce qui veut dire des maîtres humains qui sont charnels, qui sont sur la terre, parce qu'il y a deux catégories de maîtres. Nous avons un maître qui est céleste et il y a un maître terrestre. Alors donc là, Paul demande qu'ils se soumettent à leur maître terrestre, qu'ils se soumettent à eux. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire obéir? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, il me dit « obéir, c'est accomplir, céder, se conformer, écouter, observer, s'incliner, se plier à, se soumettre, respecter, suivre. » J'ai dit tout ça là pour un esclave? Ça c'est la définition de l'obéissance. Alors qu'il doit se soumettre, il doit faire tout ça. Et quand je regarde dans le dictionnaire biblique qui nous parle, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le verbe « obéir » fait apparente à « écouter ». Est apparenté à « écouter » ainsi dans le mot hébreu qui s'appelle « shama », aussi dans le grec qu'on appelle « koupakoua », signifie « écouter » et « obéir ». Donc l'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa propre volonté à une autre personne extérieure que toi, Dieu ou des humains. Donc je prends la résolution simplement de dire que je vais me soumettre à tel maître. Ça, c'est quand j'ai la liberté. Mais quand je n'ai pas de liberté, est-ce que j'ai le choix? Je me soumets par la force des choses. Mais ici, Paul n'était pas en train de dire qu'ils doivent se soumettre par la force des choses, mais il était en train de leur dire, soumettez-vous par volonté, volontairement, soumettez-vous à vos maîtres. Alors, si ça, c'est la définition de la soumission dans ce sens, Paul ordonne à ses serviteurs, ses esclaves devenus chrétiens, de se soumettre à leur maître. Alors, je viens de voir et puis je dis, mais on va avancer avec ça, on va creuser encore devant. Donc, quand Paul dit cela, dit aux serviteurs, écoutez, ça voudrait dire, serviteurs, écoutez vos maîtres. Serviteurs, soyez attentifs à votre maître. Serviteurs, observez la main de votre maître. Parce qu'à l'époque, quand les maîtres demandaient quelque chose, ils vont taper la main, il va falloir que tu obéisses. Et quand j'étais petit, mes parents nous dirigeaient avec les yeux et les doigts. Quand une famille ou bien de la visite venait chez nous et que mon papa ou ma maman ne voulait pas qu'on soit là, il suffit que je regarde dans sa face, je sais qu'elle est en train de dire « prends ton trou ». Et on sortait tous, on partait. Et si on nous donnait un cadeau, je regarde ma mère ou mon père, s'il ne veut pas que je prenne, je dis non, merci monsieur. Je le sais, il n'a pas besoin de dire verbalement. Parce qu'on nous a éduqués comme ça. Donc l'esclave devait connaître son maître et obéir aux doigts et aux regards. C'est ce que Paul dit. Mais comment il peut obéir? Il faut qu'il écoute. L'obéissance passe par l'écoute. Et dans la famille, quand un enfant ne fait pas ce qu'on lui demande, ou un enfant est impoli, les parents disent, cet enfant-là, il ne m'écoute pas. On lui dit de faire des choses, il ne le fait pas. Quand un enfant est obéissant, on dit, c'est un enfant qui écoute, n'est-ce pas? Ou quand on parle avec quelqu'un, on veut qu'il fasse ce qu'on veut, on dit, hey, écoute-moi là, ça voudrait dire, je veux que tu fasses ce que je veux te dire là. Et c'est ça. Paul dit aux ouvriers, à ses esclaves là, obéissez à votre maître, conformez-vous à votre maître, inclinez-vous, soumettez-vous à la volonté de votre maître. C'est ça l'obéissance. J'ai un exemple que j'aime souvent compter. Je l'ai lu dans Le Pain Quotidien, il y a quelques années. Et c'est un missionnaire qui était parti au Tchad avec son enfant, avec sa famille. Et puis, son enfant jouait en dessous d'un arbre. Et il y avait un serpent qui était enroulé sur le bâton, sur la branche d'un arbre, au-dessus de la tête de l'enfant. Mais l'enfant ne le voyait pas. Quand son père est sorti, il l'a vu, son enfant, il a vu le serpent. Il appelle son fils, il dit, « Philippe, couche-toi et rampe jusqu'à moi. » Qu'est-ce que Philippe fait? À terre, et il rampe jusqu'à son père. Puis son père dit, lève-toi. Il se lève et dit, regarde derrière toi. C'était un gros serpent, et ils l'ont tué. Je dis que peut-être ce petit-là n'était pas un petit Québécois. Parce qu'il dirait, papa, ça ne me tente pas de me ramper jusqu'à toi. Papa, je n'ai pas envie. Mais pourquoi je devrais ramper jusqu'à toi? Explique-toi. Donc, il va demander beaucoup d'explications avant d'obéir. Est-ce que je me trompe? Alors, je pense que le serpent l'aurait fini avec lui. Obéir, c'est une obéissance instantanée. Et les serviteurs, les esclaves devaient obéir à leur maître. Amen. Et c'est ce que Paul recommandait. Obéissez à votre maître. Nous savons que l'obéissance n'est pas toujours facile. Il n'est pas facile toujours d'obéir. Parce que notre nature humaine est contraire à l'obéissance. Avant que le péché ne soit rentré dans le monde, Adam était parfait. Mais dès que le péché est rentré, toute la race adamique a porté le germe du péché en nous, de sorte que nous n'avons pas, on n'est pas obéissant naturellement. Les parents pourront le dire, moi je n'ai pas d'enfant, mais je regarde les enfants des autres quand même. Et je vois aussi, les parents, est-ce que vos enfants ils naissent parfaits, obéissants naturellement? Il faut qu'on les montre, on leur dit non, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. On donne des ordres à l'enfant, on l'enseigne, on l'instruit, on lui montre quoi faire, quoi ne pas faire. Comme quelqu'un qui dit, un enfant ne s'assort pas de la bedaine de sa maman avec un manuel d'instruction. Papa, maman, c'est comme ça, vous devez m'élever. Lisez ça et après vous saurez comment m'élever. Mais quand les parents apprennent, ils deviennent de bons instructeurs, ils ont bien enseigné leur enfant, au moins ils deviennent des experts, les enfants sont partis de la maison et puis ils n'ont plus d'enfants à élever. C'est là qu'ils en ont besoin pour élever, mais ils sont devenus des experts, il n'y a personne. Alors donc, dans ce cas, Paul dit, obéissez, serviteurs, à vos maîtres, selon la chair, mais avec crainte et tremblement. Une autre forme d'obéissance qu'on peut voir, un exemple d'obéissance, Jésus nous dit dans la parole, dans Jean 6, 38, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 4, 34, Jésus dit encore, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà un bon serviteur, un modèle de serviteur que la Bible nous donne. Il dit que lui, il est venu, même en tant que fils de Dieu, même connaissant tout ce qui est dans le ciel, même étant égal à Dieu, il s'est soumis. Il a obéi. Et Hébreu nous dit qu'il a appris l'obéissance dans la souffrance, dans la douleur. Maintenant que nous savons que l'obéissance, c'est se soumettre totalement à son maître, sans broncher, sans discuter, sans mettre en doute l'ordre de son patron ou de son maître. Alors, nous voulons regarder quelques petites applications par rapport à ça. Je ne sais pas quelle est la condition de chacun de nous. Peut-être que tu travailles avec un patron qui est chrétien. Ou que tu as des employés chrétiens. Si tu travailles avec un patron qui est chrétien, est-ce que ça te donne le droit de le désobéir, de ne pas faire les choses sous prétexte que nous sommes frères, je ne vais pas le respecter. Je vais le prendre comme mon chum et je vais jouer avec lui-même pendant le temps de travail. Et je ne fais pas mon travail. Ici, Paul dit non, tu dois obéir si tu as un patron pour frère. Si nous avons un patron pour frère, un frère dans le Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un prétexte pour dire que, dans ce cas, comme c'est mon patron, il est mon chum, on vient dans la même église, il va diminuer mon travail, je vais mal faire mon travail, et puis il ne va pas me reprendre. Quand j'étais à Abidjan, j'avais ouvert un département d'informatique pour faire de la maintenance et pour faire les sous-traitances des travaux de secrétariat pour certaines entreprises qui étaient là. Puis j'avais pris des frères chrétiens et des sœurs que j'avais mis dans l'entreprise pour travailler. Parce que dans la mentalité de beaucoup de gens, il disait que les chrétiens fuient la réalité du monde pour aller se cacher sous le parapluie de Dieu en Afrique, pour dire je suis chrétien, alors je n'ai pas besoin de travailler, les autres vont pourvoir à mes besoins. Alors moi je voulais briser ce mythe-là pour dire que quand on est chrétien, on est appelé à travailler. Et moi je suis né dans une famille où mon père m'a toujours enseigné, un homme il avance et le travail recule. C'est comme ça on m'a toujours enseigné. Un homme il avance, le travail recule. Ce n'est pas le travail qui le fait reculer, mais c'est lui qui fait l'effet sur le travail. Donc, j'ai pris ces frères-là et sœurs pour travailler. Alors, là-bas, comprenez, Douglas pourra vous le dire, et puis le papa de notre frère Nathanaël est ici, peut-être il est allé au Burkina Faso, il est allé même jusqu'à dans mon village, pourra vous dire cela. Les gens aiment les titres, donc dans l'église, on nous appelle, tous ceux qui ont fait une formation pastorale, qui gèrent une église, nous sommes appelés des pasteurs. Alors, quand je rentre à l'entreprise, les employés qui sont des frères dans le Seigneur et des sœurs, ils me disent, pasteur, bonne arrivée, comment ça va au travail, comment tu es parti, parce que je suis parti à l'école ou faire d'autres choses. Alors ils me disent, pasteur, bonjour, comment ça va? Je dis, ouais, ça va. Puis maintenant, on va contrôler pour voir les comptes, comment le travail se fait. Et j'ai trouvé que le comptable qui était avec nous, des amis sont venus le rendre visite pendant ses heures de travail. Les gens viennent à son travail là. On vient le visiter là. Et il y a le travail, il y a des clients là. Et puis c'est des amis qui sont venus le voir, ils disent qu'ils n'ont pas le transport pour retourner chez eux à la maison. Et lui, il n'avait pas d'argent sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il puise dans la caisse de l'entreprise et puis il donne à ce monsieur. Et puis il dit que quand il va arriver chez lui à la maison, il va amener de l'argent pour rembourser. Est-ce que c'est correct ça? Alors, j'ai dit au frère, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il m'a expliqué comme je viens de vous le dire. J'ai dit que ce soit la première et la dernière fois. Prochainement, tu fais ça, tu es viré. Il dit, mais tu es pasteur, tu ne peux pas me virer. Je dis, ah ouais? Pasteur, je ne peux pas te virer? Il dit oui. Donc à partir de maintenant, tu es viré. Tu n'as plus de job. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'avait pas fait la différence entre son travail et la relation de pasteur à l'église. Vous comprenez? Et ici, Paul dit aux esclaves, ton patron là, même s'il s'assoit sur le même banc avec toi à l'église là, il est ton patron, il est ton maître, tu le respectes. Amen. Tu le dois obéissance. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça nous sommes dans notre vie de tous les jours? Au travail, à la maison, on a tous des autorités quelque part. Si on n'est pas une autorité, on en a qui sont au-dessus de nous. Et même des fois quand on a une autorité, on a Dieu au-dessus de nous comme autorité. Comment est-ce que nous vivons notre relation de travail avec nos patrons qui sont chrétiens ou avec des frères qui sont chrétiens? Et c'est ça que Paul est en train de dire. Ils doivent obéir. Alors donc, il dit au serviteur, obéissez. Mais comment un serviteur peut obéir à son maître? Il dit, obéissez comme à Christ. C'est ce que le verset nous dit. Il dit, serviteur, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Premièrement, le serviteur doit obéir comme à Christ. Mais comment on obéit à Christ? Comment? Et le texte nous dit, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, je dois obéir à mon maître. Avec simplicité de cœur, je dois obéir à mon maître. Donc, je dois obéir à mon maître comme si je voyais Christ dans mon maître. Est-ce que je me fais comprendre? Je dois obéir à mon maître comme si je voyais, à mon patron, comme si je voyais Christ au travers de lui. Donc, je dois faire ma job avec un cœur sincère. C'est ça qu'il nous demande. Avec bon gré, avec du zèle, avec simplicité du cœur, ça voudrait dire avec tout le cœur. De faire mon travail avec tout mon cœur, pas à peu près. Et quand on voit, il dit aussi comment on doit le faire. Non seulement avec tremblement de cœur, avec tremblement, crainte et tremblement, mais avec simplicité de cœur, mais aussi comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Comme de bons serviteurs qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Jésus est le modèle de serviteur qui a fait de bon cœur la volonté de Dieu. Ça, c'est l'exemple parfait que la Bible nous donne. Et dans l'Ancien Testament, on voit Joseph qui était dans la maison de Potiphar. Il a fait son travail de bon cœur. Même s'il était sous l'autorité d'un patron païen, il a fait son travail de bon cœur et avec sincérité. Et on dit à cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie. Même dans son obéissance, quand la femme de son patron a voulu coucher avec lui, il était tellement obéissant à son maître, il a refusé de toucher à cette femme-là. Il a fui. Sa crainte de Dieu et l'obéissance à son patron. Même quand la femme de son patron veut l'induire dans l'erreur, il a été wise pour voir ça. Et il a fui. Nous devons obéir avec crainte, nous devons obéir avec tremblement, avec simplicité de cœur, mais nous devons obéir de bon cœur, avec une bonne volonté. Zélé pour cela. Et deuxième point, il dit, le serviteur doit servir le Seigneur, son maître plutôt. C'est ce qu'il nous dit au verset 7. Comment il doit faire? Il dit, servez, verset 7. Un volontaire peut le lire pour nous? Un volontaire peut le lire pour nous, s'il vous plaît?
Servez-les avec empressement, car nous servons le Seigneur et non les hommes.
Ah! Continue, oui. Amen. Donc, servez-le avec empressement. Le mot empressement, ça voudrait dire quoi? Ah, je vous écoute. Empressement, ça voudrait dire quoi? Sans hésitation. D'autres commentaires? Vite. Comment d'autres encore? Tout de suite. Ici, tout de suite. C'est ça. Ce n'est pas un employé, ce n'est pas un serviteur qui traîne les pieds. On lui dit d'aller chercher de l'eau à boire, il va mettre 2 heures avant que le verre d'eau n'arrive à son maître. Non, non, non. C'est un employé, un serviteur qui est prompt, qui est vite, qui est rapide et qui obéit, qui observe son patron. Et quand son patron dit « fais ça », il le fait. Et dans Jean 12, 26, il est écrit, Jésus lui-même qui le dit, « Si quelqu'un me suit, qu'il me sert. Et si quelqu'un veut me suivre, qu'il me sert. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Donc, le maître, le serviteur est toujours là où le maître veut qu'il soit. Où le maître est, le serviteur est là. Il n'est pas loin de lui parce qu'il va observer s'il va donner des ordres pour exécuter. Donc, on doit être rapide. Vite, tout de suite, pas traîner les pas. À la maison, chez nous, c'était comme ça. Ma maman, elle ne parlait pas deux fois. Quand elle te dit, hey, va me chercher la cuillère qui est là-bas, là. Et puis moi, je m'en vais chercher, je ne le vois pas. Ma grand-mère me dit toujours, tu as des gros yeux, puis tu ne vois rien. Alors, je m'en vais, je fouille, je ne vois pas. Je dis, maman, je ne vois pas. La deuxième fois, la phrase qui vient, ça vient avec la paire de souliers. Ça y est là-bas. Il faut que je voie où ça se trouve tout de suite. Et c'est maintenant. Et quand ma maman voulait quelque chose, ce n'est pas, maman, est-ce que je peux le faire plus tard? Non, 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 c'est tout de suite. Et un jour, le Seigneur m'a repris moi-même avec cela. Il m'avait dit de faire un travail. Et puis j'ai traîné mes pas pendant des jours. Pendant des mois, même pendant une année, un jour dans ma prière personnelle, le Seigneur m'a repris. Si ton père à la maison t'avait ordonné de faire ça, est-ce que tu traînerais les pas? Si ta maman t'avait demandé de faire ça, Adama, est-ce que tu traînerais les pas? Mais pourquoi moi je te dis de faire quelque chose, tu traînes pendant des mois, puis tu ne l'as pas fait? Ça m'a amené à réfléchir. Et depuis ce moment, je ne suis pas parfait, mais chaque fois quand la voix de Dieu est claire dans ma tête, je vais le faire tout de suite. Amen. Et cela est valable pour chacun de nous. Obéissons promptement à Dieu, obéissons promptement et rapidement à nos maîtres, à nos patrons au travail. Quand mon patron me demande quelque chose, il ne me demande pas de discuter avec lui, il ne me demande pas de donner comment je vais faire la chose. Il me dit, fais telle chose, je dois obéir. Et beaucoup de jeunes qui sortent de l'université ou de cégep, des fois je parle avec quelques jeunes, ils me disent, « Oh, mon patron, il est achalant. Oh, il est trop achalant. Il me fatigue, tout le temps il est sur mon dos, il ne me laisse pas travailler comme je veux. » J'ai dit, « Monsieur, le patron là, il n'est pas là pour t'écouter toi. C'est toi qui es là pour l'écouter. On te paye pour que tu l'écoutes et que tu exécutes ce qu'il te demande. » Le syndicat est rentré, c'est bon. Mais le syndicat, je pense que ça a pourri des affaires aussi dans la société. Le but de l'enseignement, ce n'est pas de parler du syndicat. Mais j'en parle un peu seulement. Ça fait qu'il y a des gens qui refusent de travailler, ils s'assoient et puis ils vont aller voir le syndicat. Ils tournent le pouce et quand on veut les mettre dehors, le syndicat se lève avec leurs grosses pancartes, avec leurs gros sabots pour marcher, pour essayer d'empêcher de mettre un paresseux dehors. Ça ne marche pas. Ton patron, peut-être tu sors de l'université avec beaucoup de connaissances qui sont bonnes. Et ces connaissances qui sont bonnes, on a besoin de ça pour l'entreprise. Mais tes patrons qui sont là, ils ont l'expérience, ils ont la connaissance. Et si l'entreprise marche jusqu'à on t'a embauché, c'est parce qu'il y a des gens qui tiennent debout, qui ont fait leur job. C'est pourquoi toi, tu as pu entrer aujourd'hui dans l'entreprise. Alors, tu vas devoir respecter ton patron, malgré ta grosse connaissance que tu amènes de l'université. Et ainsi, tu pourras progresser dans l'entreprise. Amen. Et cela est valable aussi dans notre vie de couple, mais c'est aussi valable dans l'église. Je dois me soumettre à mes autorités. Des fois, je discute avec des personnes quand je dis, « Ah, moi, je ne ferai pas ça. » Je dis, « Ok, moi là, je suis là pour obéir aux anciens. Ce que les anciens vont décider là, moi, je ne suis pas là pour me battre avec eux. Hein. Je ne suis pas là pour me fâcher. Ou... Non, non, je suis là pour me soumettre à eux. Trevor, Douglas, Michel, Deningue et tous ceux qui sont les anciens qui sont dans l'église, moi là, je suis là. On me dit, Adama, même si je suis un ancien parmi eux, je dois obéir. Mon objectif n'est pas d'entraver à leur travail. Mon objectif est de collaborer avec eux, ainsi que Benoît Fortin. Je dois collaborer, je dois travailler avec eux sous leur autorité, parce que c'est une autorité que Dieu a établie, je dois obéir. Si j'enfreine à leur commandement quand on me dit de faire quelque chose, j'aurai à répondre pour Dieu. Moi, je ne voudrais pas me tenir devant Dieu et dire, Adama, à cause de toi, mes serviteurs n'ont pas pu faire leur job. Non, non, non. Moi, je vais obéir. Eux, ils vont rendre compte. S'ils m'ont induit dans l'erreur, ils vont rendre compte. Ils sont responsables de ça. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen pour ça. Hein? Hein? Amen. Alors, donc, nous devons obéir. Le serviteur doit obéir promptement, rapidement, tout de suite, pas demain, pas après-demain, maintenant. Alors, mais pourquoi le serviteur doit faire tout cela? Pourquoi un serviteur doit tout faire tout cela? Il doit obéir à son maître. Il doit le faire avec crainte et tremblement. Il doit le faire dans la simplicité du cœur. Il doit le faire comme pour Christ. Il doit le faire comme un bon serviteur de Christ le ferait. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que l'autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui a établi l'autorité. Alors il veut que je me soumette. Et la Bible nous dit dans Romains 13, 1 à 2, qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes ces autorités qui ont été établies sont de Dieu. Et c'est Dieu qui les a établies. Et nous devons nous soumettre à eux. Peu importe qui ils sont. Ils peuvent être de bonnes autorités ou de mauvaises autorités, comme de bons patrons ou de mauvais patrons. Est-ce que ça me donne le droit de ne pas obéir? Non. La Bible dit, même si j'ai un patron difficile, dans 1 Pierre 2, verset 18, je dois me soumettre. Même si mon patron est difficile, même s'il n'est pas comprenable, en autant qu'il ne me bat pas avec un bâton de baseball, je dois me soumettre et faire ma job. Amen. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. C'est vrai, il y a des patrons qui sont difficiles, il y a des patrons qui sont doux, il y a des patrons qui sont des bonasses. Mais dans l'un ou l'autre cas, Dieu nous demande de nous soumettre. Alors pourquoi ils doivent se soumettre? Quand nous regardons le verset 8, il nous dit pourquoi. Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu qu'on se soumet à nos autorités. Deuxièmement, dans le verset 8, il nous dit, parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense au verset 8. Il nous dit, sachant que soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Les esclaves à Éphèse, dans l'église d'Éphèse, travaillaient, ils n'avaient pas de récompense. Le patron ne pensait même pas les récompenser. Ils n'avaient pas de cadeau de Noël. Ils n'avaient pas de bonus. Et aujourd'hui, nous sommes dans des emplois, des fois, quand tu voyages, on te dit, ben, ton patron, l'entreprise te donne des bonus parce que tu as fait tel travail, tu as fait tel ceci. On le voit aussi avec les banques aux États-Unis et puis partout en Europe. Les patrons qui travaillent, on met beaucoup de bonus sur leur argent. On dit, ils ont fait beaucoup de profits, alors on leur donne des bonus. Même s'ils font faillite, on prend l'argent du contribuable pour payer leur bonus pareil. Hein? C'est très méchant, hein? Merci Douglas, c'est vrai, c'est méchant. Et je me bats contre ça. Ça n'a pas d'allure, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, donc, Jésus et Dieu, et je dis Jésus, Paul dit aux ouvriers, aux esclaves, il dit, réjouissez-vous, faites le travail comme si vous le faisiez pour Jésus. pour votre maître, parce que lui, c'est un bon maître. Voyez en votre maître quelqu'un de bon et servez-le. Parce que tout ce que vous faites, il y aura une récompense au bout. Peut-être que votre maître peut ne pas être reconnaissant. Il peut même ignorer ton travail. Il peut même prendre le crédit de ton travail et le donner à un autre ouvrier. Il peut même ne pas te bénir pour cela. Mais Dieu qui est dans le ciel, lui, il est juste. Dieu qui est dans le ciel, il voit tout le travail que tu as fait. Dieu qui est dans le ciel, il va te récompenser. Et dans 1 Corinthiens 15, 58, il dit, sachez mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Si un enfant de Dieu fait le travail, fait son travail avec une bonne conscience, il fait un travail bien pour la gloire de Dieu, Dieu dit que cela ne sera pas resté sans salaire. Il recevra une récompense. Dieu ne devra à personne. Lui, au moins, s'il est juste. J'entends beaucoup d'employés aujourd'hui qui perdent leurs emplois à cause qu'il n'y a plus de travail. Ou bien à cause que des patrons ont été ils ont eu le ventre plus gros, les yeux plus gros que le ventre, qu'on peut dire. Ou ils veulent faire trop de profit. Alors ils essayent d'enlever tout ce qui peut aider les employés, ils enlèvent tout et puis les emplois se perdent. Et certains même n'ont pas leur retraite, fonds de retraite. Certains se retrouvent sans rien. Mais peut-être tu es dans ce cas-là en tant que chrétien. Mais sache, si tu as fait ton travail avec intégrité, avec sincérité, pour la gloire de Dieu, Dieu connaissant ton cœur, il ne te laissera pas mourir de faim. Il va récompenser. Il va pourvoir. Amen. Alors, donc, nous voyons cela. Et le devoir des maîtres, dans le verset 9, quand nous regardons, le verset 9 nous dit quoi? Il dit, « Et vous, maîtres, agissez de même à l'égard, à leur égard, et abstenez-vous de menacer. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. » Là, Paul met les maîtres en garde. Oui, il a parlé aux esclaves. Il a parlé aux serviteurs, il a parlé aux employés, il a parlé aux ouvriers. Maintenant, il va parler aux employeurs, aux maîtres, aux patrons, aux boss, aux PDG. C'est à eux qu'il parle maintenant. Il leur dit, comportez-vous bien. Il dit, c'est les mêmes paroles que j'ai dit aux esclaves. Aux employés sont valables pour vous. Là, Paul met les employés et les patrons sur le même pied d'égalité. Vous devez aussi agir de la même sorte. Pas que le patron va devenir esclave de l'autre. Non, non, non. Le patron est un esclave pour le Seigneur. Il doit bien traiter ses employés. Il doit bien prendre soin d'eux. Il doit se soucier de leur bien-être. Alors il leur demande de faire cela. Si nous attendons que des employés soient obéissants envers nous, nous aussi démontrons notre obéissance envers Dieu et cela va avoir un impact dans la vie de nos employés. Traitons nos employés avec droiture et justice. Prenons soin d'eux. Et disons-le, quand ils font quelque chose de bon, une tape sur l'épaule là, tu as bien fait, c'est bon, ça n'enlève rien dans la gloire de Dieu. Comme des fois, il est arrivé, par rapport au encouragement, un jour, il y a une sœur chrétienne qui jouait au piano, elle a fini de jouer, et les gens sont venus dire, « Ah, ma sœur, merci, vraiment, c'était très bon. » Elle dit, non, 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 ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et le pasteur se tourne et dit, pardon. Il dit, c'est le Seigneur. Elle dit, non, non, le Seigneur jouera mieux que ça. Il dit, le Seigneur, si c'était le Seigneur qui était au piano là, il jouera mieux que ça. Parce que des fois, on pense que quand les gens viennent nous féliciter pour dire qu'on a fait quelque chose de bien, on pense que si on accepte cet encouragement, qu'on est en train d'enlever quelque chose dans la gloire de Dieu. Non, ça n'enlève absolument rien dans la gloire de Dieu. Tant que tu restes humble, tant que tu sais que c'est Dieu qui t'a amené là, ça n'enlève rien dans la gloire de Dieu. Donc, patron, donnez des fois des tapes à votre employé. Dites-leur, c'est bon, tu as fait de la bonne job. Encouragez vos enfants à la maison. Encouragez les serviteurs à l'église, les anciens, les ouvriers, les diacres et tous ceux qui font quelque chose, ceux qui font le ménage. Encourageons-les. Donnez-nous une tape dans le dos. Ton travail est bien fait. C'est beau. Il le fait pour le Seigneur. Amen. Et nous devons les encourager dans ce sens-là. Nous encourager les uns les autres. Et il dit, votre maître et leur maître est le même dans le ciel. Donc pour cela, agissez de même. Soyez obéissants vous aussi. Soyez bons. Faites les choses de bon cœur, avec bonne volonté. Et il continue, et il dit en ce moment-là, encore, il dit, abstenez-vous de menacer. Il y a des patrons qui aiment menacer leurs employés. Si tu ne fais pas ça, on te met à la porte. Si tu ne fais pas telle chose, on va te faire ça. Tout le temps, les gens travaillent sous la menace, stressés, peur de perdre leur emploi. Dieu dit, fais pas ça. Menace pas tes employés. Si tu es chrétien, fais pas. Parce que ces employés-là, ils sont aussi tes frères et sœurs, ils ont le même maître que toi. Tu vas rendre compte aussi à ce maître-là. Alors Paul attire l'attention des employés, des patrons sur ça. Il dit, quand on regarde la fin du verset, et il dit, le vôtre, il dit, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Leur maître est mon maître. Donc, l'employé, l'esclave qui s'assoit dans l'église, avec son patron, ils ont tous les deux un seul maître. Et ce maître-là, c'est Dieu. Et on dit devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Dieu est droit. Il est l'équité, il est juste. Et les patrons doivent aussi être droits et justes envers leurs employés. Comme nous avons vu, les époux, les épouses doivent l'obéissance à leur mari. Et que les maris aussi doivent obéissance à Dieu, dans l'obéissance mutuelle aussi, en prenant soin de leur femme. Et en même temps, les enfants doivent l'obéissance aux parents. Et que aussi les pères doivent l'obéissance à Dieu, dans le sens qu'ils doivent prendre soin de leurs enfants et pourvoir à leurs besoins. Et ce soir, nous venons de voir que les employés, les esclaves, doivent obéissance à leur maître. Nous ne devons pas oublier cela. Obéir, servir bien, faire le service de bon cœur et de ne pas mal faire le travail, ne pas traîner les pieds quand on travaille. Quand on nous confie quelque chose, faisons-le de bon cœur. Pourquoi ? C'est pour Dieu. Demain matin, là, vous allez partir dans la shop, au travail. Quand tu vas voir ton patron, tu vas voir le Seigneur en lui. Qu'il soit païen ou pas, tu vas le regarder comme le Seigneur qui est en lui au travers de lui, et que tu vas lui rendre un service. Et chaque fois quand il va te demander quelque chose à faire, fais-le avec rapidité, fais-le avec joie, fais-le avec zèle, fais-le avec courage, qu'il soit fier et qu'il soit content, même s'il ne le dit pas devant toi. Mais Dieu est content dans le ciel, et ta récompense sera grande dans le ciel. En conclusion, soyons des serviteurs et des maîtres intègres et soumis à Dieu. Soyons des serviteurs et des maîtres intègres, soumis à Dieu. Dans 1 Corinthiens 13 et 10, 31, il dit, soit donc que nous mangions et que nous buvions ou que nous fassions quoi que ce soit, quelque chose, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, faisons-le pour la gloire de qui ? Pour la gloire de Dieu. Si chacun fait son travail de cette façon, je vous dis que la société sera une société harmonieuse, une société bénite, une société où on sera en paix, parce que l'évangile va toucher les gens par notre témoignage. Par notre façon de travailler, des cœurs seront touchés. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous voulons ce soir te demander pardon moi le premier. Toutes les fois où je n'ai pas fait mon travail comme si c'était pour toi, ou toutes les fois où j'ai été négligent, toutes les fois où j'ai fait le travail comme si je le faisais pour une autre personne que toi, Seigneur, j'ai péché. Et je voudrais te demander pardon. Pardonne-moi pour mes insuffisances. Pardonne-moi pour tout péché commis contre toi. Je voudrais lever la voix et prier de même pour tous mes frères ici présents. Et sœurs aussi. Nous te demandons pardon ensemble pour les fois où nous n'avons pas été obéissants à nos patrons, pour les fois où nous avons calomnié ou critiqué nos patrons, où ils ont fait des choses qui n'étaient pas droites, mais cette chose qui n'était pas droite, mais nous aurons dû aller les voir peut-être pour parler ou accepter de venir devant ta présence et parler, mais nous les avons critiqués et calomniés. On a vu aussi des maîtres peut-être qui n'ont pas été droits et honnêtes avec leurs employés, Seigneur. Dans l'un ou l'autre cas où nous nous trouvons, nous te demandons pardon. Lave-nous, purifie-nous, aide-nous à pouvoir être des serviteurs pour toi. Que ce soit patron ou employé, Seigneur, donne-nous tous les deux de te donner gloire par les œuvres que nous ferons pour ton nom, par les emplois que tu nous as donnés. Donne-nous de te donner gloire. Au nom de Jésus, amen. Merci pour votre écoute.